Bonjour à toutes et à toutes, merci pour votre attention pour les audios proposés par le site www.norh.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question relative à la déontologie, à savoir les fonctionnaires peuvent-ils accepter des cadeaux et des invitations. Dans sa vie professionnelle, tout agent public peut se voir proposer des cadeaux ou des invitations. Les accepter peut l'exposer à une sanction pénale et ou disciplinaire. Si la courtoisie ou les bonnes relations peuvent ponctuellement justifier leur acceptation, certains secteurs d'activité l'excluent strictement, comme le rappelle l'agence française anticorruption AFA. Le principe qui prévaut en ce domaine est le principe de transparence. Un guide rappelle les formes très variées de ces avantages à valeur monétaire qui peuvent concerner plusieurs agents et s'inscrire dans une forme de bonne relation ou de remerciement. Produits alimentaires, livres, chèques ou bons cadeaux, invitations au restaurant, événements sportifs ou culturels. En effet, un cadeau ou une invitation peut suggérer l'existence d'une rétribution d'un service rendu, une incitation à une certaine bienveillance ou une familiarité passant l'interlocuteur de l'agent public dans une situation privilégiée. Ainsi, le guide recommande un principe clé, ne jamais solliciter ni accepter de cadeaux ou invitations dans l'exercice de ses missions, particulièrement s'il s'agit de procédures d'achat public, d'attribution de subventions, d'autorisation ou d'agrément, de fonctions d'inspection ou de contrôle, de maintien de l'ordre ou dans des activités de guichet. D'éventuelles exceptions tiendront compte des fonctions, des caractéristiques et circonstances du cadeau et s'effectueront en toute transparence. Il est essentiel que l'agent en informe son employeur, le déclare le cas échéant par inscription sur un registre. Le guide recommande un régime d'autorisation préalable ou de sollicitation du référent déontologue. Les secteurs à risque. Pour l'AFA, certaines fonctions ou missions sont incompatibles avec tout cadeau ou invitation de personnes physiques ou morales, même indirectement liées aux missions, si l'agent est détenteur d'un pouvoir de décision faisant grief ou se trouve dans une relation de proximité avec le public exigeant un comportement dénué de toute suspicion. Sont visées les fonctions intégrant l'agent dans le cycle de l'achat public, les fonctions le conduisant à attribuer des aides et subventions incluent les fonds européens, les fonctions menant à une décision administrative individuelle ou à la délivrance de titres, autorisations ou agréments, en urbanisme par exemple, les fonctions de gestion des files d'attente pour l'attribution des logements sociaux ou de places en crèche, les fonctions d'inspection et de contrôle des acteurs économiques au public, les fonctions de tutelle sur des opérateurs, les fonctions induisant un contact avec les usagers ou une proximité avec le secteur privé, la gestion administrative des ressources humaines, paye, recrutement, rémunération et avantages accessoires, s'y ajoutent des emplois impliquant le maniement de fonds publics, régie notamment. À l'État, les fonctions liées à la gestion des biens mobiliers, gestion de stock,
comptabilité, matière, les fonctions juridictionnelles, les fonctions de maintien de l'ordre. En dehors de ces hypothèses, l'employeur peut autoriser les agents à bénéficier de cadeaux ou invitations de faible valeur. Si cette notion reste subjective, de 20 à 150 euros selon les employeurs, ils doivent être rapportés à la structure concernée et exprimer en tout état de cause un seuil au-delà duquel le cadeau ou l'invitation sera refusé. Il peut être noté qu'il importe aussi de tenir compte de l'éventuelle répétition des cadeaux ou invitations dont le montant cumulé sur une durée donnée peut excéder les limites admissibles et créer une situation d'obligé à l'égard du tiers susceptible de nuire à l'apparence de neutralité de l'agent et à l'employeur. Un risque possible également sur le plan pénal. L'acceptation ou la sollicitation d'un avantage peut constituer un délit de corruption ou de trafic d'influence passif. S'il est la contrepartie de la réalisation ou non d'un acte de la fonction ou facilité par elle. La corruption active est la proposition d'un avantage à une personne pour accomplir ou s'abstenir d'effectuer un acte facilité par sa fonction ou sa mission selon l'article 433-1 du Code pénal. Il en est ainsi du directeur de société versant des pots de vin et remettant des montres de luxe à des agents en marge d'un contrat ou de l'agent qui sollicite ou reçoit des dons de sinistrés pour contrôler leur dossier. La corruption passive est la sollicitation ou l'acceptation des avantages proposés. Dans tous les cas, Les peines encourues sont de 10 ans de prison et 2 millions d'euros d'amende. Pour rappel, le montant de l'avantage n'est pas nécessairement un critère. De petits cadeaux pouvant caractériser une situation de corruption qui sont donnés à l'agent pour bénéficier de plusieurs commandes ou achats sur facture. Le corrupteur n'est pas forcément nécessairement à l'origine de la corruption, mais peut avoir accepté la proposition de l'agent, pénalement défini comme le dépositaire de l'autorité publique, l'agent chargé d'une mission de service public ou la personne investie d'un mandat électif. La corruption peut être caractérisée même si l'agent refuse l'offre, la tentative n'existant pas. Le trafic d'influence. Dans le trafic d'influence, une personne reçoit ou sollicite offres, promesses, dons, présents ou avantages pour abuser de son influence, réelle ou supposée, pour qu'un tiers prenne une décision favorable. C'est donc une structure tripartite associant un corrupteur, souvent le bénéficiaire qui fournit les avantages, l'intermédiaire qui utilise son pouvoir et la personne cible qui a le pouvoir de décision. Comme la corruption, il est actif s'il résulte des propositions du bénéficiaire de la décision ou passif s'il procède d'une sollicitation ou de l'accord de l'intermédiaire et fait l'objet des mêmes articles du code et des mêmes peines. Relève du trafic d'influence l'invitation au restaurant de préparateurs de commandes et d'acheteurs au regard de leur influence dans l'attribution des marchés ou le cadre territorial acceptant d'une entreprise de BTP une carte essence pour régler ses frais de carburant, d'entretien et même d'alcool en s'arrangeant avec le gérant de la station en échange d'avis favorable de la commission arbitrant entre les offres reçues par la collectivité. Il en est de même du fonctionnaire acceptant des cadeaux pour tenter de régulariser la situation d'un étranger par une intervention auprès d'un assistant parlementaire ou de l'acceptation de cadeaux d'une entreprise qui pense obtenir une aide dans l'attribution de marché. La concussion et le favoritisme. Dans la concussion, l'agent public reçoit sciemment, exige ou ordonne, une somme qu'il sait n'être pas due ou accorde sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, une exonération de droits, de contributions, d'impôts ou de taxes en violation des textes. Il en est ainsi du fonctionnaire d'un musée municipal vendant des billets alors que l'entrée est gratuite, perçoit ou exonère une personne des droits d'occupation du domaine public sans délibération. Ce peut être l'inspecteur des finances publiques qui accepte à la demande d'un contribuable des déclarations de TVA minorées pour lui faire gagner les pénalités de retard. Dans cette infraction, l'agent agit intentionnellement pour exiger ce qu'il savait n'être pas dû ou ne perçoit pas ce qui devait l'être. Il est indifférent qu'il ait agi à des fins d'enrichissement personnel ou de façon désintéressée. Cette infraction peut être reprochée à la personne qui tente de la commettre, même si elle n'y parvient pas. Dans le délit de favoritisme, 2 ans de prison et 200 000 euros d'amende, un élu ou un agent tente ou procure à autrui un avantage injustifié par un acte contraire au texte garantissant la liberté d'accès et l'égalité de traitement des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession. Ce sera le cas du fonctionnaire qui accepte des voyages et autres avantages en contrepartie de décisions favorables dans l'octroi des marchés publics. En effet, l'agent public est présumé connaître les règles de la commande publique et l'intention de les méconnaître est suffisante même si l'agent ne visait pas à favoriser un candidat. Elle est également constituée en l'absence d'enrichissement personnel. Il est à noter que ce délit étant réalisé en cas de violation des principes fondamentaux de libre accès, d'égalité des candidats ou de transparence, il peut être commis dans le cas de procédure en deçà des seuils pour lesquels il y a une obligation de mise en concurrence ou de publicité. Les enjeux disciplinaires. Outre le risque de poursuite pénale, l'agent qui reçoit ou propose des cadeaux ou invitations s'expose à des sanctions disciplinaires. Et justifier la révocation du contrôleur des douanes qui bénéficie de la part d'un opérateur économique qui doit contrôler d'un voyage d'agrément aux États-Unis tout frais payé et d'un prêt sans intérêt et qui a par ailleurs accepté ou sollicité le bénéfice de repas d'autres opérateurs. De même, effonder la révocation du fonctionnaire des impôts qui accepte 1 000 euros en contrepartie de la réduction de la pénalité de retard infligée à un contribuable des enveloppes avec des bons pour un repas, des sommes modiques ou des livres de la Pléiade. relève d'une retraite d'office, l'acceptation du cadeau par un commandant de police en contrepartie de l'obtention de visa de transit pour un étranger. À retenir que ces pratiques peuvent aussi affecter le fonctionnement de la collectivité en remettant en cause la régularité de ses procédures ou de ses actes jusqu'à l'annulation du marché ou de la décision pour détournement de pouvoir, par exemple la méconnaissance du principe d'impartialité constituant un vice d'une particulière gravité. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à consulter notre site www.norh.com. C'était Pascal Naud, le président de l'association NoRH.com. N'hésitez pas également à faire appel au besoin à notre service d'assistance statutaire et d'aide à l'accompagnement des situations individuelles. À bientôt sur NoRH.com.